CKUT
Radio. Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada.
CKUT.
CKUT 90.3 FM.
Hello there, out in the ether. I hope that you're having a great day, whatever you're up to. Driving your car, cooking your dinner, or perhaps just sitting down to listen. You're tuned into CKUT 90.3 FM currently, and this is Pirate Lock Radio. Speaking to you right now is me, Malte Leander, your host for the evening and the show, coming out of Jejage, also known as Montreal, located on unceded indigenous lands. If you're familiar with Pirate Lock Radio, then you know the drill. But if it's a first, then we'll have a small introduction for you to catch up. This is the show where we talk about all shapes and forms of creation and creativity in new media and digital art practices, together with a range of other experimental fields in a variety of mediums. Pirate Block Radio, being part of the Art Center Eastern Block, we are today focusing on the center's first in-person exhibition since the pandemic, called Techno-Mysticism. We will be discussing this together with a few of the artists part of the exhibition today. The exhibit is a reflection on and critique of our collective technological future, examining the pursuit of meaning and its entanglement with new technology. Certain works explore the liberatory potentials of virtual spaces, while others reveal the limits of technology to respond to fundamental questions surrounding life and death. If you're listening to this in real time, know that the exhibition is running until the 26th of February this year, 2022, at the Eastern Bloc Gallery. Head on over to easternbloc.ca for more information. A handful of emerging artists are part of this exhibit, of which I have the opportunity to speak to a few of them today. The first out of two interviews today will be in French, just a heads up for all you anglophones out there. Alors, pour la première entrevue aujourd'hui, je parlerai avec deux artistes multidisciplinaires. Marie-Lou Lyonnais, artiste visuelle ainsi que musicienne et DJ, et aussi à Étienne Montenegro, qui mélange la photographie avec l'art numérique dans différentes manières, deux artistes parmi ceux qui font part de l'exhibition Techno-Mysticism. Bienvenue tous les deux au Pirate Block Radio.
Merci, merci, hein, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Donc, votre œuvre qui fait part de l'exhibition au titre Ghost Echoes Where Pathways Meet présente une sélection divers de matériaux et médiums, en étant ainsi qu'une sculpture sonore réactif, qu'une sorte d'obélisque de taille impressionnante aussi. Pouvez-vous décrire un peu de quoi qu'on expérience en voyant cette sculpture en personne, peut-être?
Oui, ben c'est une stèle, en fait, une sculpture sonore très grande, faite de bois, puis qui a plusieurs composantes électroniques. Puis donc, c'est une sculpture qui est réactive au passage des passagers, des visiteurs dans la salle. Puis au passage des visiteurs proches de la sculpture gronde plus fort sa trame sonore. Et je peux laisser Étienne décrire le volet plus technique à l'intérieur de la sculpture.
Oui, en gros, c'est ça. Quand Magnum m'a approché pour pouvoir travailler sur l'interactivité initialement dans son projet, étant même développeur pour les artistes, j'ai embarqué avec elle. Fait qu'on a travaillé son idée justement de faire un objet qui demanderait qu'on s'approche, mais qui aussi on se repousserait l'utilisateur en même temps en travaillant justement une sculpture enceinte dont le volume et certains aspects du son génératif étaient liés à la proximité des usagers face à l'objet. En grosso modo, là, si on résume ça, c'est pas mal ça, là, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça après à l'intérieur, là, mais ça, c'est des détails techniques.
C'est sûr, ben, c'est bien de pouvoir donner une description assez courte pour avoir une petite idée, mais oui, avant vu ça en personne, moi-même, ben, je peux te dire que c'est un peu plus profond, qu'il y a beaucoup de couches qui se cachent dans la sculpture même. Justement, la taille et le forme me fait penser, j'ai vu ça dans la description aussi, que c'est une sorte de mélange entre la mythologie, mais ça fait penser aussi à un monde plutôt sci-fi, avec les extraits vidéo qui sont pris depuis une vaste sélection de différents sites internet, donnent une sorte de mélange et jeu peut-être de temps et des époques. Est-ce que vous pourriez parler un peu sur ce rencontre de temps et de... Oui.
Oui, mais c'est sûr qu'il y avait un volet un peu, disons, sacré, peut-être spirituel à la pièce. Donc, sa grandeur, son air un peu funèbre, un peu opposant, donnait un côté, c'est ça, plutôt comme un peu ésotérique à la chose. C'était un désir de faire une espèce de pierre montante. Au niveau du temps, c'est la pièce aborde quand même d'un temps assez contemporain, là, avec les références au numérique des vidéos qui sont à l'intérieur. Mais en effet, j'imagine que ça peut évoquer plusieurs temporalités. Avec si on pense justement à des monolithes qui ont été retrouvés un peu partout dans le monde à différentes époques, puis un monolithe d'heure actuelle, donc on peut parler de plusieurs temporalités en effet.
Ça fait penser justement en utilisant le sable qui est autour du pièce aussi, le fait transporter un peu à un autre environnement aussi.
Oui, oui, c'était un soin un peu, c'est un peu une lubie, c'est un peu compliqué aussi à organiser, mais il y avait un désir un peu de créer une espèce de d'effet onirique, comme quoi justement la selle pouvait peut-être exister d'un endroit à l'autre ou dans un lieu qui est plutôt exotique pour le Canada, moins 30.
Exactement le temps qu'il fait pour le moment. Ici à Québec. Je suis curieux un peu d'entendre d'où ça vient le titre de l'œuvre, Ghost Echoes Where Pathways Meet.
Oui, ben en fait, l'œuvre parle, la pièce parle de solitude, beaucoup pluriel, donc de solitude de vie, de mort, de l'absence, d'amour, puis de notre relation avec le numérique. Puis je considère tous ces thèmes un peu comme des espèces de fantômes qui planent sur nos quotidiens. Puis j'ai voulu, dans le fond, un peu les évoquer avec le son qui est garni de feedback, puis de déco, puis de delay. Puis c'est vraiment ce son un peu fantomatique qui m'a donné l'envie d'appeler la sculpture Ghost Echoes. Puis Where Pathways Meet, c'est en référence à l'idée que j'avais un désir d'allier l'art et le son avant tout. Puis, c'est aussi un hommage à Sun Ra, pour qui j'ai une grande passion, puis que j'aime beaucoup ses propos sur l'univers, la musique et les arts. Donc, c'est un petit hommage à Sun Ra aussi.
Mm-hmm. Justement, le contenu sonore a été produit en collaboration avec une troisième partenaire, Nell Apaki. Peux-tu nous en parler un peu du paysage sonore ou du processus derrière ça?
Oui, absolument. Nella Paki, une collaboratrice que j'adore, avec qui je fais de la musique. Donc, on a composé ensemble à partir de différents instruments, un peu de synthétiseurs, de micros avec des feedbacks d'environnement proximes, puis aussi de machines. Puis donc, au début, on voulait faire un peu plus d'échantillonnage, peut-être aller échantillonner des bruits de machines, puis finalement... ce n'est pas arrivé, mais ça pourrait être une chose à retenter. Mais donc, c'était vraiment un travail plutôt de matière électronique. Puis, Nella ensuite a travaillé dans MaxMSP pour que la trame sonore puisse être générative au passage des différents visiteurs.
Mm-hmm. Et c'est de ce côté-là, un peu, Étienne, que tu fais part du projet, de ce qui se cache dans la sculpture, ou comment que la technologie interagit avec le côté interactif du sculpture?
Oui. Au début, j'ai commencé, je veux dire, un peu comme consultant avec Marie-Lou. Elle m'a approché pour savoir comment elle pourrait réaliser son idée. Puis on a vite commencé à commander. Moi, je lui montre un petit peu qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se fait, puis un peu qu'est-ce qui répond à son modèle d'interactivité, si tu veux. Puis rapidement, c'est arrivé à, je veux dire, une collaboration où est-ce que j'ai travaillé avec elle plus au niveau de faire les prototypes et tout. Fait que, comment dire, pour ce projet-là, je dirais que bien, j'ai fait office de direction technique au final, là, parce qu'on a quand même été capable de chercher du financement. Et au début, c'était pas censé nécessairement être ça, là, c'était censé être beaucoup plus petit, étant donné qu'il y avait pas. On n'avait pas eu de bourse du Conseil des arts, là. Puis là, on a été capable d'aller chercher justement, du financement. Puis je pense que c'est là que ça a un petit peu plus évolué, étant donné qu'on avait du financement, on pouvait aller un petit peu plus loin dans nos idées. Fait que, quand dire, c'est ça, là, on a commencé, quand on a eu un peu plus d'argent rapidement à échanger sur comment est-ce qu'on pourrait apporter ça un petit peu plus loin, quelle technologie on pourrait implémenter et oui, comment est-ce qu'on pourrait. Tu veux construire un système pour travailler avec d'autres personnes aussi, là. Mais c'est ça, je pense que genre, ça l'aide de pouvoir se compléter quelque part, là, parce qu'elle peut challenger ce que je lui apporte en termes de code au niveau du message, plus là, ce qui arrive souvent quand on est vraiment plusieurs personnes qui ne pensent qu'à la technique, c'est qu'on
C'est
ne
sûr.
travaille que pour la technique, plus que pour l'idée et le message, là.
Ben c'est bien quand on peut être des différentes parts du casse-tête qui fonctionnent ensemble, qui devient quelque chose que toute seule qu'on pourrait peut-être pas réaliser avec son skill set.
Oui, puis je voudrais aller chercher la bonne technologie pour passer le bon message aussi, là, parce qu'il y a plein de manières de faire les choses, là. Mettons un exemple ici, ce serait dans le cadre d'aller chercher un projet qui parlait de technologie actuelle et tout, là, on aurait pu utiliser n'importe quel type de sensor qu'on voulait, mais pour faire notre tracking, on va quand même chercher aussi des algorithmes de vision là, qui servent comme à traquer les humains, là, qui ça aurait pu être plein d'autres choses, là, on aurait pu être un guide ou autre chose, mais je pense que c'est quand même plus actuel d'utiliser ces manières-là qui aujourd'hui sont bien présentes partout, là. Ils ne sont pas juste un plus vieux tracker qui est accessible maintenant, là. Et
Absolument.
regarder ça actuel, là, un peu, là.
Étienne avait des capacités techniques incroyables sans qui je n'aurais pas pu réaliser le projet en 2 ans. Ça m'aurait pris probablement 10 ans le faire tout seul. Puis aussi, ensemble, on pouvait réfléchir davantage à nos idées, nos décisions, nos choix. Sans, si j'avais été seule, peut-être que j'avais fait un essai rudimentaire avant qui consistait à une sculpture en Moxyrus, à peu près même grandeur, mais qui avait seulement une enceinte Bluetooth à l'intérieur que je commandais à distance, puis c'était le maximum que je pouvais faire seule avec mes capacités techniques.
Voilà.
Donc, Étienne a élargi la possibilité de la pièce vraiment avec son large spectre de connaissances.
Parfait. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne, des prototypes qui deviennent des prototypes qui, au final, donnent un œuvre finale, un produit final qui fait tout ce qu'on voulait depuis le début. Alors si on parle un peu plus peut-être sur le grand sujet de cette exhibition qui, depuis la variété des œuvres qui sont présentées là-dedans, donne des différents angles et réflexions sur le futur et son intrication avec les nouvelles technologies. Que pensez-vous un peu sur ces choses-là ou comment est-ce que le futur des technologies affectera peut-être vos manières de travailler comme artistes, ou comment que ça fait part au présent en travaillant?
Tu avais-tu
Je peux y aller, je veux dire, comment dire, mon ancienne pratique, juste mettons, moi je pense que ça va changer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, puis pour beaucoup de praticiens quelque part. T'sais, avant, moi je viens du monde de la photographie analogue, là, c'est-à-dire comme vraiment très loin des technologies, là, puis est venu le jour où j'ai découvert la programmation, là, tu vois. Puis ça, là, ça a complètement changé ma manière d'aborder la création. Fait que je veux dire, là, tu vois, ça, c'est juste mon expérience, mais je pense que pour plusieurs personnes, plus les technologies, on va dire, cutting edge, vont être rendues accessibles, plus ça va leur permettre de vraiment réaliser leurs idées. Là, en tout cas, à l'école, là, puis je veux dire, encore une fois, pour moi, dans mon groupe d'amis, j'ai quand même plusieurs personnes qui, quand se sont mis à programmer, ont découvert des logiciels style un peu touch designer là, qui permettent vraiment de unleash, je veux dire, le pouvoir créatif à 1 000 000 % pour faire vraiment tout ce qu'on veut. Si on comprend les outils puis le construire, va apporter j'aimerais dire un nouveau paradigme quelque part dans les possibilités de création, parce que il n'y a plus vraiment de limite autre que le processing power que tu as. Là. Puis là, ça, c'est sans parler de bientôt, quand on va commencer à... C'est déjà un peu commencé, mais à créer avec les machines ou plus à regarder les choses que les machines auraient créées. Là, ça va vraiment apporter la création quelque part d'autre. Là. C'est difficile de dire exactement comment encore, là, parce que on va peut-être perdre un petit peu du skills qu'il fallait avant pour pouvoir créer une image, puis ça va être un petit peu plus dans les idées de comment utiliser toute cette même machine là, qui serait un ordinateur. Là. Ouais, fait que je pense que ça va ouvrir encore plus de portes qu'on avait déjà à pouvoir créer de manière différente. Là.
Je suis d'accord avec ça, mais je suis aussi de l'avis que c'est une arme à double tranchant, comment la technologie, autant qu'elle est, elle peut nous permettre d'être très inventifs et créatifs, qu'au final, c'est une question de consommation aussi. Puis tous ces éléments technologiques avec lesquels on veut créer, bien, peut-être qu'au final, est-ce que notre création aide vraiment la situation planétaire présentement? Non, peut-être pas. Est-ce qu'on est dans des lubies? Je ne sais pas, parce que je pense à notre truc qu'on a fait. T'sais, notre système est super énergivore quand même au final. Puis on parle de la condition numérique, puis au final, on y contribue davantage. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il faut rester très éveillé face à toute... ce numérique-là, puis l'œuvre parle un peu de ça avec les segments vidéo, là, plus d'une façon, elle s'intéresse au web, mais c'est une arme à double tranchant, la technologie, je pense qu'on peut y aller avec, on peut créer des choses incroyables, mais aussi, il faut penser à l'impact que ça peut avoir sur les générations futures. Puis, c'est ça.
C'est sûr, même si ça peut-être des outils en faisant des commentaires justement dessus pour peut-être il faut faire le pas à consommer pour créer de l'art qui fait penser à des autres gens qui changeraient leur manière de vivre. Justement, consommer un peu pour changer des patterns aux autres gens. Impliquer des autres manières à penser sur ces choses-là.
Mais oui, je suis d'accord. C'est juste... Il faut se questionner à est-ce qu'on les fait, puis au final, est-ce qu'on ne contribue pas à ce phénomène en les faisant, puis en les questionnant. C'était juste une interrogation que j'ai ces jours-ci.
Absolument. Il faut continuer à la voir. C'est une question qui est difficile. C'est plutôt à réfléchir dessus sans vraiment venir vers une réponse, juste à avoir ça en étant conscient, en continuant de créer de ces manières-là. Aussi en créant les espaces, celui du paysage sonore que vous avez, mais aussi le visuel qui existe à l'intérieur du sculpture, puis l'espace physique que Ghost Echoes prend aussi. Je me demande un peu comment peut-être que l'espace et l'environnement jouent un rôle dans votre travail artistique.
Grandeur. Pour ma part, du moins dans mon travail personnel, vraiment personnel, j'ai vraiment occupé l'espace de l'écran, je veux dire, dans la vie, là, beaucoup avant, là, avant de commencer à plus développer de l'interactivité et autres, là, c'est toujours de l'image fixe, là. Ceci dit, dans les dernières années, là, en commençant à programmer plus et tout, là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à comment est-ce qu'on pouvait apporter l'usager à vivre de manière un petit peu plus embodied l'art quand il veut l'avoir. Là. On est vraiment habitué à regarder de loin. Puis comme quand on a les expériences interactives qu'on voyait à l'école ou qu'on peut vivre un petit peu encore en ce moment sont, je dirais, peut-être un peu limitées. Là, fait que, puis là, moi, c'est peut-être plus une réponse pour le futur, là. Mais j'aimerais pouvoir explorer de plus en plus, justement, une création, je dirais, qui occupe vraiment un espace tactile, tangible pour les utilisateurs, qui les amène plus à la vivre qu'à la consommer. Je veux dire, ce projet-là, c'est une des premières pour moi, puis j'aimais beaucoup l'idée, puis je pense que ça m'a aussi... en tout cas, de plus en plus, je me rends compte que... c'est encore commentaire sur ma pratique personnelle, que le bois est quelque chose je veux dire, qui est un peu dans moi là, depuis toujours. Là, j'ai toujours gossé du bois, construit des choses avec des morceaux de bois qu'on peut trouver, puis là, en construisant... comme réellement, je veux dire, un objet d'art pour faire vie comme ça, ça m'a amené aussi à vouloir passer un petit peu plus de temps à peut-être commencer à regarder la sculpture. Fait que je dirais que comme j'avais pas vraiment une conception de une création qui nécessitait un espace physique. Mais je pense que encore plus maintenant, surtout dans l'idée de l'art numérique, même si c'est un petit peu contradictoire, d'apporter de plus en plus l'art numérique à l'extérieur de l'écran, puis de travailler plus des trucs qui seraient hybrides, mais qui apporteraient les usages justement à la vivre et à interagir avec et à la toucher le plus possible pour vraiment... encore une fois, leur donner une expérience qu'ils vivraient plus qu'une expérience qu'ils iraient voir ou écouter ou juste consommer de manière plus passive. Là.
Mm-hmm. Ouais, c'est une bonne réflexion, je crois, sur ces rencontres-là, comme tu dis, les versions hybrides qui existent dans les deux domaines en parallèle.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. J'aimerais ça moi aussi travailler davantage le numérique, l'écran, la technologie qui sort de l'écran, créer des lieux plus architecturaux qui sont numériques. C'est sûr que dans Ghost Echoes, l'espace était très important. Le son, au final, fait partie de l'espace. C'est que ça devient comme une espèce de bruit matière. C'est important que les lieux soient pas... Ben, ça aurait pu créer un autre effet, que les espaces soient plus petits, mais c'est important que le son puisse voyager. En mon sens, l'espace, ça fait partie... C'est l'expérience. Les choses, on n'est plus... je crois plus qu'il faut regarder une chose comme on regardait avant sur le mur. Puis on peut encore apprécier, je ne dis pas que je m'y oppose, mais je crois que c'est... C'était très important pour nous de travailler la sculpture, puis qu'on puisse pouvoir faire le 360, puis l'apprécier ainsi, vivre sans rapprocher, s'en éloigner. Voilà.
Merci vous deux pour les réflexions et pour avoir parlé un peu sur votre travail et sur le projet de Ghost Echo. Ça a vraiment fait plaisir de voir tout ça en personne et puis d'entendre un peu plus en profondeur derrière de quoi qui se cache en idée et la pratique aussi.
Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil.
Oui, merci. Ça fait plaisir là, de pouvoir partager avec toi.
Merci beaucoup. Alors, on finit cette discussion aujourd'hui avec Marie-Lou Lyonnais et Étienne Monténégro en rentrant dans un autre espace, en écoutant un extrait sonore depuis leur création Ghost Echoes, Where Pathways Meet. You're listening to Pirate Bloc Radio for this episode that revolves around Eastern Bloc's most recent exhibition, Techno-Mysticism. And more so, we get to hear some of the artists speak about their work that is currently presented in the gallery. My second guest of the day is Shen Ye, an interdisciplinary artist that blends the artificial and digital spaces with the natural ones through profound reflections that span over a wide spectrum of practices and mediums, somewhere in between music, design, web art, and education. They have one foot in Canada and the other in China, which is also where they're tuning into from today. How's it going, Shen? Welcome to the show.
Hi, Thank you for inviting me. I'm doing well. It's nighttime here.
Yeah, I'm glad that we were able to find a time slot that worked, it being morning here. So quite the difference. Well, so Shen, you're currently exhibiting one of your pieces at Eastern Bloc. So I figured that we could have a little chat about your piece to have our listeners get a bit of insight into what that is that you're doing. So this piece is titled Error Number 1 and is an installation that presents the viewer with an augmented hybrid space with both textual and visual and sonic materials. Could you perhaps explain a little bit to us what your piece explores?
Sure. So Error Number 1, that's showing currently at Eastern Bloc, it's part of a long-term project I've been working on. Error, spelled as E-R-R-O-A-R, it's like a combination of the word error and roar. So this entire series started from how my research in early experiments with artificial intelligence. And from there, I started to discover some different either anecdote or, you know, things that are considered milestone in the development of artificial intelligence. Some of them are errors that we make, like scientists make during the experiments. And I was very intrigued and kind of inspired by these errors. So that's how the entire series came about. With Error Number 1, it was basically based on a fact, in 2016, AlphaGo it's an AI player that was trained to play Go, and one of the world's most the best Go players was defeated by AlphaGo. So that was considered a moment when people were very surprised or by this news that artificial intelligence can defeat a human. Mm-hmm. And from this fact, I look into more about the hardware of AlphaGo. So it was allegedly powered by 1920 CPUs and 280 GPUs. And these numbers and this fact also, I found it super interesting, because Lee Sudo, who was the Go player,
right?
And was basically playing with this AI player AlphaGo. But I was watching the news and I was actually watching the entire game, and a lot of people are arguing because it's scary that there's no embodiment, there's no body for AlphaGo.
Mm-hmm.
So that's why I was curious to see, or even just imagine the body, of AlphaGo.
Right.
And I found out it's actually, if we think about, I guess making an analogy, I know it's kind of problematic to sort of anthropomorphize like machines, but it's like AlphaGo, it's very large. It takes up a lot of space and it requires a lot of power that's invisible.
Mm-hmm.
So error number one was trying to basically recreate the hardware use, basically materialize these and to create a space where we can visualize and see these things that are usually behind, you know, behind the scene
right.
and experience it.
Yeah. Yeah. And no, it's interesting to sort of show that just what you've finished off saying here, looking into the encasings. I mean, because all of these devices that we're using around us, all the technology that is for the consumer so invisible, you know, it's kind of like magic in a box. And so with this sort of really a hyper powerful computer or driven by that many CPUs and taking up, you know, half a medium sized room. It's kind of interesting to see that spatialized, as you're saying, that you're doing with the piece of sort of turning that inside out and showing what's inside in a way.
Mm-hmm.
And for people that aren't aware of that, the game Go that you're talking about, that's quite a traditional board game, right? That a lot of people are playing.
Mm-hmm. Yeah. And it's supposed, I guess now it's not, but it was supposed to be a very complicated game. Because it requires a lot of calculations,
right.
Like very intensive calculations. And this is why, like, when AlphaGo defeated Lee Sedol, it was a milestone to show how powerful AI could be.
Mm-hmm. Well, as I started out saying, the sort of augmented reality that you're showing in this piece also has some textual elements. What kind of textual material is it that appears in the augmented reality when interacting with the artwork?
I guess, yeah, I kind of want to keep it as a secret because I intentionally break up two sentences into mm-hmm. smaller chunks and then kind of hit them in different spots or patterns of these the wallpaper installation.
Right.
It's, I guess what I was trying to create, like this kind of experience, it's like while the audience, it's navigating the space. I'm quoting here the space that the wallpaper it's constructing. They sort of get lost, and they will have to, if they're interested, they're willing to. They will have to piece together these different. I guess clues in mm-hmm. order to make a coherent sentence or make meaning out of these, you know, seemingly dispersed words.
Yeah.
And another thing, I it's actually very, it's something I've been experimenting a lot in most of my work is trying to, like I'm fond of wordplay, and in this work specifically, you know, I was hoping that the audience can create their own sentence out of these words, which kind of skew from the original sentence, the original meaning that these words convey.
Mm-hmm.
And I think this, you know, sort of decontextualization or recontextualization, it's part of the algorithmic reality we're living in, when you know, information are like oversaturated, and we get meanings from various different places, and sometimes it's up to the person, up to the context where you make sense of the information.
Yeah, that's a good point. We're certainly in a time where you sort of have to interpret the different truths, or that you're being fed that much information, mm-hmm. that you kind of have to decide for yourself eventually what part of the truth or what kind of truth that you listen to or decide to be the one that you go with. So I think that's an interesting take on the textual elements of the artwork. Well, you also mentioned that Eroar is a series, and I've seen that you have a couple of other pieces. Number 4, for example, Eroar number 4, that explores quite the particular theme, a sort of virtual cannibalism of feedback mm-hmm. loops, used as a metaphor for assimilation, that I found quite interesting. Is this the most recent part of the series, or what do you envision comes next for Eroar?
Number 4 is the latest work out of this series. I'm still super interested in digging more throughout this, I guess, logic or thread. And I've been, I guess, yeah, it's related to how I practice. It's like I kind of research all the time and daily, like, and while I gather information and connecting dots of different parts, and it will inspire me or kind of trigger me to make new works.
Mm-hmm. Yeah, on that note, I actually wanted to sort of widen the scope a little bit on our conversation and talk a bit more about what you mentioned now, your sort of creative process in general, looking over past projects and traces of your work. I think it stands clear to me that you have a toolbox that is quite diverse, with a lot of your projects freely crossing boundaries of mediums and expressions. So I'm curious to hear if you want to share a bit on how you choose where to start. Now, you mentioned sort of a continuous research process, but do you have a structured way of working, or do you sort of follow where inspiration takes you, or yeah, could you comment a bit on that?
It's definitely a combination of both. Like, sometimes it's a feedback loop, basically. Like, the research, I actively research. Well, I actively experience. I actively live as a human, and then what I encounter will feedback into how I think, and it will sparkle questions. And that's sort of the start of how I kind of, I guess, making artwork, it's kind of like materializing the thoughts, right? So that's generally how the process is, but in practice, because like you mentioned, like, because I do a lot of different things, so in practice it's actually it's kind of a mess sometimes, because sometimes, like, within one day I might be doing web development, I might be teaching, I might also make music, I might also be like reading, and all of these will, you know, all together inspire me, I guess feed me.
Yeah.
Yeah.
It's a good way of putting it. Yeah.
Yeah.
An artistic chaos, but for good and bad, I can imagine. And you mentioned chaos, but it's also what feeds into the creative diversity that you're eventually coming up with. I mean, looking at the different types of work that you're presenting. You know, I find this interlinkage between the sort of embodiment of the organic, natural world and then the synthesized versions of these, maybe digitally or virtually, to be particularly interesting in your work, and that you explore. What is it about this meeting between the quote-unquote natural and the technological world, or between human and machine, that interests you to explore in your practice?
Yeah, I guess it actually, like, my interest or my practice, like I was saying, it's really deeply informed by my lived experience. I started making music first. Like, I learned how to play piano from a very, very young age. So music was my first kind of medium, expressive medium, music or sound, and then performance. And to me, sound making, it's always a bodily experience. So I guess I've always have a very close relationship with the body. Or now that I'm expanding this concept, like all the embodied experiences. And then later on, you know, throughout my life, I switched career multiple times, but then I landed on doing web development. And I guess it's, at first it was like these, you know, 9-to-5 job, office job, like a super mechanical cycle of, I guess, confinement of the body, and also like how I kind of have to talk to the machine, the computer, all the time. And yeah, I guess at first I experienced these frictions between human and machine, and to an extent, I feel like it's no longer a dichotomy, you know.
Mm-hmm.
It's like keep like the feedback loop again, right? When that's happening, and it's just like the entanglement, it's hard to separate. I guess a lot of these questions or interests in exploring, natural and the digital or human machine. And now I actually use more than human to describe or to refer to what I'm, this entire network of inseparable entities. It all started from my lived experience and how I interact basically daily with these different things.
Well, it's interesting to hear. I mean, for an untrained eye or viewer or audience witnessing some of the more perhaps complex works that you're doing, it's interesting to hear that it still spawns from lived everyday experiences, you know, as a human interacting with a computer, for example, for everyday tasks, that has then sort of developed to be now something that you have quite sharpened and complicated tools and questions that you're bringing up in your project. So thanks for sharing some of that background. Something else that you're doing is also crafting spaces. I mean, that's done both through augmented realities and digital ones, or filling physical rooms with your work. So I'm curious to hear how space and environment affects your work when also having two different home bases, perhaps in two parts of the world. How the environment around you affects your work, perhaps.
That's a very super relevant question for me. I guess I don't consciously think about space, but it's like always the backdrop of a lot of decision making in when I'm creating the artworks. For instance, some of my works are taking a lot of space, like physical space, because in those work I intentionally want to foreground the body, the autonomy of the sensorium, or the senses and the perceptions, and I guess to phrase it in a more casual or easy understood, understandable way, it's like when I'm bored or when I'm tired from the digital, like I feel I can't feel my body that much. I intend to, come back to the body. Mm-hmm. And then sometimes I think certain concepts of mine require spaces that are screen based or networked. But even with those works, I guess still my emphasis is the embodied, like how we interact yeah. with the screen.
Yeah, because the body's still in place even when entering into a digital or virtual space. It's not like it's detached from the experience, even though the lived experience is in sort of another space. I mean, the physicality is still there in a different way.
Yeah.
Well, Shen, I think that we are running out of time for today's episode. So I want to thank you kindly for taking the time to shine some light upon some of your work and talk to me today.
Oh, thank you. Thank you for the invite.
Okay, well, thanks again, and best of luck with your continuous work.
Thank you.
That's all for today's episode, folks, and on the Techno Mysticism exhibit that you can currently go visit at Eastern Bloc if you're in or around Montreal, and this will be open to the public until the 26th of February. Today's guests were featured artists Marie-Lou Lyonnais and Étienne Montenegro, and just now you heard a conversation with Shen Ye. Other artists featured in the exhibition are Nicolas Lapointe and Baron Lantaigne. Have a look on over at easternbloc.ca to find more information about their work and about the exhibit itself. Thanks for tuning in. I'm your host, Malte Leander. This is Pirate Block Radio, and I'll be back next month with more interesting conversations here at CKUT 90.3 FM, first Thursday of the month between 8 and 9 p.m. And before leaving you today, we'll have a listen to one of Shen Ye's compositions from their debut album from 2019 titled ZZ, here with a track of the same name. Thank you.
CKUT 90.3 FM, Montreal.